augmenter, là, l'évolution des surfaces en prairie, etc., etc., de façon à ce qu'on raisonne sur un état futur et pas sur ce qui est sous nos pieds aujourd'hui. Troisième point de l'état des lieux de 2004, évaluer le degré actuel, le niveau courant, current level, de la récupération des coûts. On donne une photo, là pour le coup c'est une photo, c'est pas une tendance, c'est une photo du niveau actuel de la récupération des coûts. Où est-ce que vous en êtes en termes de subventions, coûts pour l'environnement, transfert entre les acteurs. De façon à ce qu'on puisse vous demander ensuite, ça c'est quand même un des impératifs de la directive, que les mesures que vous prendrez ne dégradent pas ce niveau de recouvrement des coûts. On peut faire un peu ce qu'on veut, mais on est censé ne pas réduire la récupération des coûts, c'est-à-dire ne pas, en gros ça veut dire, ne pas faire financer la politique de l'eau de demain par le contribuable. Hein, c'est ça qui est derrière. J'interprète personnellement là, bien sûr, mais je pense que c'est une interprétation relativement courante. L'étape suivante, en fait c'est celle dans laquelle on rentre aujourd'hui, c'est la mise en discussion avec l'ensemble des acteurs et le grand public des enjeux de la gestion, de façon à discuter de ce qu'il faut faire en fait, hein, de poser un programme, de poser les bases d'un programme en ayant identifié les questions importantes qui se posent sur le bassin. Ça a l'air de rien, mais l'idée est de dire qu'on se met d'accord politiquement sur ce qui fait priorité sur un bassin. Et ça, pour le vivre de l'intérieur, je peux vous dire que c'est difficile, parce que chacun soulève toujours le doigt, lève toujours le doigt en disant « Mais chez moi, qui peut représenter éventuellement deux cantons ou trois communes, il y a tel enjeu effectivement très important. » Mais du coup, si on accepte de tout mettre dans la liste, eh ben on met rien et on empêche le bassin de prendre des options politiques importantes, claires, négociées, etc. L'idée qu'il y a là, c'est vraiment ça. C'est quelles sont les priorités des enjeux de la politique de l'eau sur notre bassin, sur lequel on est à peu près d'accord et sur lequel le public est amené à se prononcer. Alors, ça se définit de manière un peu plus précise, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Et bien sûr, pour 2008, 2008 en France, 2009 sur la directive en général, c'est l'identification des mesures à prendre, des actions, et leur impact économique. Et c'est là où l'économie va rejouer un rôle relativement important, sur lequel j'aurai moins de choses à dire parce qu'on découvre, en fait, on n'a pas encore l'expérience, on ne l'a pas encore fait, et donc on y travaille en ce moment, c'est l'évaluation économique, a priori, du futur programme de mesures. L'idée est de dire, si vous mettez en place un programme de mesures 2009-2015, il faut avoir vérifié que vous n'allez pas nous faire payer des choses inefficaces, c'est-à-dire des infrastructures très coûteuses qui auraient pu être remplacées par une gestion plus intelligente des infrastructures existantes, de la demande, être payé par d'autres, etc., etc. Et donc éviter l'inefficacité dans l'allocation de l'argent public, de l'argent des acteurs à la politique de l'eau. Et aussi, bien sûr, avoir discuté et négocié entre vous, à l'intérieur du bassin, des objectifs environnementaux, notamment en ayant demandé des dérogations de délai, ou des reports de délai, ou des dérogations de sévérité dans l'objectif, parce que les atteindre coûterait évidemment trop cher. Ça, c'est, encore une fois, tout ça, c'est à préparer pour être mis en place avant 2009, en 2008, pour la France. Je vais maintenant vous donner quelques exemples ou quelques illustrations de réalisation pour cette première partie. Non pas qu'elle soit plus importante que les autres, parce que vous l'aurez compris, il y a un diagnostic et ensuite un programme de mesure, et les deux sont très importantes. L'économie aura un rôle très important à jouer dans la deuxième partie. Mais tout simplement, soyons modestes, parce que j'en sais beaucoup plus sur cette première étape, parce qu'on l'a faite, et donc on a eu les mains dedans, et donc on sait à peu près au moins ce qu'on a réussi à faire, ce que mes collègues des autres bassins européens ont réussi à peu près à faire, alors que la suite, eh ben, on ne sait pas encore bien précisément comment on va s'y prendre. C'est une mauvaise et une bonne nouvelle pour vous. Une mauvaise nouvelle parce que vous ne savez pas à quelle sauce vous serez mangé. Une bonne nouvelle parce que vous pouvez faire partie de la cuisine. C'est-à-dire que tout ça va se discuter, se négocier au sein des bassins, ils sont là pour ça, et de la participation du public et des acteurs. Et donc vous avez un rôle à jouer tout simplement en étant vigilant, en apportant votre pierre à l'édifice des évaluations qui vont être conduites. Alors, je vais donc... Sur ces premières étapes de l'évaluation économique, c'est-à-dire l'économie dans le diagnostic, je vais faire deux choses. d'une part très rapidement vous donner un aperçu illustré des évaluations économiques qu'il faut qu'on réalise, et ensuite vous exposer la récupération des coûts tel que nous l'avons évalué sur le bassin Seine-Normandie. Après on discutera, et après on passera à l'exposé très partiel des travaux sur le Rouca. Alors, comme je vous le disais, l'économie au niveau de l'état des lieux, ça consiste déjà à exposer aux acteurs de l'eau, au public, aux différentes parties prenantes, les enjeux économiques qu'il y a derrière. Bernard Picon l'avait remarqué ce matin, on a beaucoup parlé de milieux naturels, de conditions de référence, d'hydroécologie, etc. La directive prévoit qu'on n'oublie pas, au moment où on établit le diagnostic, qu'on n'oublie pas les usages de l'eau, leur importance économique, c'est-à-dire l'homme dans tout ça, à quoi sert l'eau, à qui elle sert, et donc qu'est-ce qu'il y a derrière en termes économiques et sociaux. Quelles sont les populations qui sont concernées, populations de ménages, mais aussi populations d'exploitants agricoles, d'artisans, d'industriels, de pêcheurs, d'utilisateurs, etc. Qu'est-ce que ça représente économiquement dans un bassin? Que représentent-ils les uns par rapport aux autres? Que représentent-ils dans l'économie locale? Ça, c'est une première chose à faire, qui est un peu ingrate, parce qu'elle est très descriptive, et pour vous parler d'expérience, une fois qu'on l'a fait, on ne sait pas quoi en dire, nous. C'est normal, parce que ce n'est pas à nous de l'utiliser, c'est à vous. C'est ensuite, quand vous allez négocier les termes de la politique publique, que ces différents éléments qui donnent le poids économique des usagers vont vous servir à argumenter en disant, écoutez, vous nous dites qu'on a telle contrainte, mais regardez, le secteur économique qu'on représente, eh bien, représente je ne sais pas quel pourcentage du PIB, de l'emploi, etc. Et d'accord, il a des impacts environnementaux qui sont ceux-là, mais il a aussi une composante économique et sociale qui sont celles-ci. C'est l'idée d'apporter à côté des données sur les pollutions, les pressions, des données sur le but de tout ça, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est très important aussi, c'est l'idée que je vous exposais de projection à long terme tendancielle, ce qu'on appelle le scénario tendanciel, en anglais baseline scénario, qui consiste à dire quelles sont les tendances actuelles, que se passe-t-il si elles se prolongent sans rupture. Par exemple, la démographie. Dans mon bassin, qui comprend la région parisienne, la démographie n'est pas... Si on regarde globalement sur le bassin, sur les 17 millions d'habitants, en France, la démographie n'est pas galopante. Ce n'est pas un problème pour un ingénieur de l'eau. Il sait apporter de l'eau à 1%, 2% de population en plus. Le problème, il n'est pas là. Il est que la croissance démographique se fait à certains endroits très brutalement, avec 100, 200, 400 habitants qui arrivent d'un seul coup dans une commune qui en comptait 50. Et ça, ça pose évidemment des problèmes, pour le coup, très importants, très ponctuels, mais très importants, de financement, de pollution, de remise en cause de l'aménagement, de l'occupation du sol, de conflits avec les différentes occupations du sol. Ça se prévoit relativement bien. C'est l'avantage avec la démographie, c'est qu'on sait à peu près dire, en tout cas à 10 ans, à 10-15 ans d'avance, on sait à peu près dire où vont être les points chauds. On a aussi à regarder, et ça c'est un deuxième volet très important et très intéressant quand on le fait, ce que je viens de terminer sur le bassin, quel sera l'impact que l'on peut attendre de la mise en œuvre des directives de l'eau actuelles. Vous savez que les grandes villes, les grandes et les moyennes villes, sont aujourd'hui extrêmement occupées par la mise en œuvre d'une directive européenne très lourde, très importante, qui s'appelle la directive sur les eaux résiduaires urbaines, en français la DERU, Urban Wastewater Management Directive, qui impose par une réglementation un assainissement, une épuration des collectivités. Et évidemment, l'une des questions qu'on ne nous pardonnerait pas de ne pas traiter, en tout cas qu'il faut absolument qu'on traite, c'est quand on aura fait ça, on est censé l'avoir fait pour une partie. On est en retard, il ne faut pas le dire, mais bon. Quand on l'aura fait, on le fera même avec du retard, mais on le fera. Qu'est-ce que ça va apporter comme qualité de l'eau? Quels sont les progrès de qualité d'eau au milieu qu'on peut attendre? Et du coup, qu'est-ce qui restera? Est-ce que appliquer cette directive ne suffit pas à certains endroits pour atteindre le bon état écologique? Ça, c'est un calcul, un peu, un travail de multidisciplinaire à faire entre ingénieurs, économistes et écologues, qui permet un peu de donner une idée de quelle est la partie du chemin que les directives en cours, qui coûtent cher, vont nous permettre de parcourir de toute façon. De façon à, ensuite à dire, ben alors, là où il reste du chemin à parcourir, c'est à tel endroit sur le territoire ou c'est sur tel paramètre de pollution. J'ai pas pris le temps de développer cet aspect-là. On a beaucoup travaillé dessus sur le bassin, mais on peut pas tout faire. Et donc, je ne développerai pas ça pour cette Normandie. Troisième point très important de cette projection, c'est la prise en compte des incertitudes critiques, c'est-à-dire les ruptures qui peuvent avoir lieu. Ça, on ne l'a pas fait encore pour ce qui nous concerne, parce que c'est un autre travail. Mais par exemple, eh bien, là, je vous parle de quelque chose que vous connaissez mieux que moi. La nouvelle politique agricole commune, si elle est, enfin, selon la manière dont elle est mise en œuvre, l'arrivée des pays à nouveaux adhérents de l'Union, l'ouverture des marchés, etc., ça peut changer des choses. C'est très difficile à prévoir, pour le coup. Ça peut changer radicalement un certain nombre de choses pour l'agriculture irriguée, pour la pollution et donc pour la gestion de l'eau. Mais il y en a d'autres. Le changement du climat. On peut aussi faire des scénarios économiques de rupture, c'est-à-dire un redémarrage de la croissance économique plus important que ce qu'on a connu, c'est possible. Ou au contraire, une crise très grave, plus grave que ce qu'on connaît, qui pourrait remettre en cause la capacité de contribution des économies. Ça aussi, ce sont des choses qu'on peut maintenant regarder sur la base des tendances actuelles. Et puis on a tenté de le faire, nous, pour le bassin Seine-Normandie, de simuler l'impact de ces changements, changements dans les activités, changements dans les politiques en cours, sur la qualité de l'eau, c'est-à-dire est-ce qu'on atteint une partie des objectifs. Sur le petit exemple qui est donné là, c'est le bassin de l'Oise, les tronçons en bleu clair sont les tronçons sur lesquels, pour la qualité physico-chimique de l'eau la plus classique, ce qu'on appelle les macropolluants, azote, phosphore, matière organique, c'est tout, c'est déjà pas mal, mais c'est tout. Les efforts d'épuration des différents acteurs permettraient d'atteindre les paramètres de quelque chose qu'on pense être le bon état, en bleu clair. En bleu intermédiaire, c'est quand il y a du progrès, mais ça ne suffit pas à atteindre les seuils qui seraient probablement nécessaires. Je dis bien probablement parce que je vois déjà des gens se poser la question, mais vous avez en France la définition du bon état, personne ne l'a. Non, on ne l'a pas. Mais il n'est pas forcément très difficile de travailler avec des seuils qui sont à peu près les mêmes partout en Europe, sur les grandes pollutions classiques, matière azotée, phosphorée, organique. On peut travailler et puis après réviser nos hypothèses. En tout cas, l'incertitude sur le bon état, pour ces paramètres-là, ne nous empêche pas de travailler. Et maintenant, troisième point, qui est celui que je vais développer ensuite, qui est donc l'évaluation de la récupération des coûts actuels. PowerPoint a transformé mes puces en croix, on dirait que c'est mort, que c'est fini, ou que c'est un peu funèbre comme diapositif. J'espère que ce n'est pas l'impression que ça vous laissera. Vous l'avez très bien résumé. Ça concerne, par exemple, trois grandes catégories de questions. Les coûts financiers, ou disons monétaires, c'est-à-dire les coûts de comment ça se dit en français, d'entretien et d'investissement des équipements, les coûts pour l'environnement et les coûts pour la ressource. Alors on pense que c'est écrit comme ça dans la directive, hein, les coûts pour l'environnement et la ressource. On s'est posé beaucoup de questions sur ce qu'ils pouvaient bien vouloir dire par coût, en distinguant coûts pour l'environnement et coûts pour la ressource. Une des manières d'interpréter, c'est une interprétation, consiste à dire les coûts pour l'environnement, ce sont les coûts des dommages qui sont causés par les services de l'eau. Je vais revenir dans un instant sur les services de l'eau, c'est-à-dire les utilisations de l'eau qui en gros les pollutions, on va dire. Donc ces pollutions induisent des dommages. Ces dommages génèrent des perturbations sur l'écosystème et ces perturbations, elles représentent des coûts pour la société. Soit parce qu'elles imposent des actions, traiter l'eau, se protéger, mettre des digues, etc. Soit parce qu'elles imposent une dégradation de l'écosystème pour lui-même qu'on peut essayer d'approcher par l'intermédiaire de sa valeur intrinsèque. Et puis, les coûts pour la ressource, je pense que l'idée qu'il y a derrière les rédacteurs, c'est de dire que parfois, l'eau devient rare en quantité. Ça, vous connaissez ça très bien, beaucoup mieux que moi, en tout cas sur Seine-Normandie. L'eau devient rare en quantité et dans ces cas-là, chaque utilisateur d'un mètre cube d'eau génère un coût, c'est-à-dire que ce mètre cube n'est pas disponible pour un autre usage. C'est ce qu'en économie, on appelle un coût d'opportunité. certains disent qu'en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que finalement, les coûts environnementaux, ça n'est jamais que rendre l'eau de bonne qualité rare. C'est toujours des coûts de rareté, c'est-à-dire on rend rare quelque chose, soit l'eau en quantité, soit l'eau en qualité. Alors, bon, ça je vais passer parce qu'on n'a pas trop le temps. Alors, voilà, et je vais donc vous proposer maintenant une illustration de cette première évaluation. Donc, encore une fois, c'est une photo de la situation de la récupération des coûts pour le bassin Seine-Normandie. Ce sont des chiffres sur lesquels on travaille depuis maintenant plus de deux ans et demi, qui ont été déjà largement mis en débat au sein du comité de bassin, des commissions géographiques, que j'ai diffusé largement à tous les groupes d'intérêt, agriculture, distribution de l'eau, hydroélectricité, environnement, bien sûr, et qui ont déjà donné lieu largement à débat. Ce n'est pas qu'ils soient définitifs, mais on commence à avoir une certaine solidité sur certains d'entre eux. Première chose très importante à rappeler, la récupération des coûts s'applique et ne s'applique qu'au service de l'eau. Ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué, voire byzantin dans la directive, mais qu'il faut prendre comme tel, c'est écrit comme ça. Qu'est-ce que c'est les services? En gros, ce sont toutes les utilisations de l'eau qui consistent à, qui nous conduisent à la capter, à l'endiguer, à la stocker, à la traiter, à la distribuer. On peut dire de manière très très bête et méchante, à la faire passer à travers un tuyau, quel que soit ce qu'on en fait ensuite. Et tout le reste ne sont pas des services, mais des usages. C'est ma manière d'interpréter les choses pour les rendre simples. Mais en gros, les services de l'eau, donc c'est tous les usages de l'eau que vous pouvez imaginer derrière tout ce qui consiste à capter, traiter. Donc c'est l'eau potable, c'est l'assainissement, c'est l'irrigation, c'est la gestion des effluents, des pollutions ponctuelles industrielles, c'est les prélèvements industriels, et c'est éventuellement la gestion des effluents de l'élevage. Donc c'est ce que je dis là. Je vais passer vite. Pour ce qui concerne l'agriculture, sont des services de l'eau, de manière assez évidente. D'une part, l'irrigation, et d'autre part, les bâtiments d'élevage. C'est-à-dire que l'épandage, les pollutions diffuses, ne sont pas des services de l'eau. Ce sont des utilisations de l'eau. C'est-à-dire que c'est un ensemble plus vaste auquel ne s'applique pas la récupération des coûts, sauf de manière indirecte. C'est-à-dire que chaque utilisation doit contribuer, comme les autres, à ce que les coûts des services soient corrects. Autrement dit, pour le dire en clair, c'est personnel comme manière de le dire, les coûts qui sont imposés par certains usages, par exemple la pollution diffuse, au service de l'eau, doivent être évalués et on doit tendre vers leur prise en compte par leurs auteurs, par l'auteur des coûts. Tendre vers, les évaluer, rendre ça transparent et en tenir compte de ce principe dans les plans de gestion. Et en revanche, là où c'est relativement sévère, c'est ne pas dégrader le degré actuel de récupération des coûts. L'hydroélectricité et la navigation ont donné lieu à d'âpres négociations. Il n'y a pas que sur l'agriculture que ça négocie dur. Le résultat a été de dire que ça dépendra des États membres qui décideront de les considérer ou non comme des services selon l'importance qu'ont ces usages en termes d'impact sur leur bassin. En France, on va considérer que oui, ce sont des services. Alors, je rappelle que la récupération des coûts n'est pas un principe obligatoire à appliquer. Son application n'est pas obligatoire, mais elle est à évaluer. Et contrairement à ce que beaucoup disent, elle est à évaluer dès 2004. Là-dessus, personnellement, je ne suis pas la Commission européenne, ce n'est pas mon boulot. Mais je pense que, très clairement, les gens qui disent « c'est une question qui sera abordée en 2009 » se trompent. Très clairement, l'article 5... qui disent qu'on doit évaluer en 2004, fait référence en toutes lettres à une analyse économique de l'eau et à l'annexe 3 qui dit qu'on doit proposer les calculs nécessaires à la récupération des coûts. Donc dès maintenant, on doit s'en occuper. Mais c'est à intégrer, c'est encore une fois prendre en compte, tendre vers, etc. Cette affaire, à l'échelle du district, c'est très important. Ce n'est pas à faire à l'échelle régionale, ni même à l'intérieur d'une commune, etc. C'est à l'échelle du bassin. On regarde les agriculteurs comme un tout, les agriculteurs du bassin, les ménages du bassin, les industriels du bassin, les contribuables du bassin. Et on ne nous demande pas de faire plus fin. On peut si on veut, mais on ne demande pas de faire plus fin. On a le droit de mettre en place des exemptions, de nous exempter de la prise en compte du fait des effets sociaux de pratiques nationales couramment établies. Par exemple, le fait qu'en Irlande, il est inscrit dans la Constitution que l'eau est distribuée gratuitement, ben c'est une pratique établie qui permettra à l'Irlande d'objecter et de dire qu'elle n'appliquera pas la récupération des coûts. On a appelé, c'était un amendement, ça, négocié à la toute fin de la directive, qui a été appelé l'amendement irlandais. Voilà. Alors, donc, en résumé, ça consiste à répondre à la question qui paye quoi dans le domaine de l'eau, et deuxièmement, qui paye pour qui. Alors, je vais vous donner une illustration. D'abord pour les ménages, c'est-à-dire les ménages consommateurs d'eau. Sur le bassin, leur facture d'eau chaque année représente à peu près 2,7 milliards d'euros par an, soit 375 euros par ménage. Ça représente pour une partie le paiement du service d'eau potable, pour une partie le paiement du service d'assainissement collectif, et puis des redevances et taxes, dont voilà la décomposition. Et la TVA. L'alimentation en eau potable se répartit entre production d'eau, c'est-à-dire les usines, et distribution. Et dans la production, le traitement représente seulement une partie, c'est-à-dire les usines de traitement d'eau potable représentent une partie seulement. Dans l'assainissement, on peut distinguer la collecte de l'eau et le traitement. Je ne vais pas forcément trop détailler. Et tout ça, on regarde de quelle manière ces paiements sont effectués auprès des services d'eau et d'assainissement. En France, comme je crois en Espagne, ce sont essentiellement les communes qui produisent ces services. Pour l'agriculture, je remets la diapositive précédente. 2700 millions d'euros par an, c'est le prix de la facture d'eau des ménages, du secteur de l'eau pour les ménages. Pour l'agriculture, c'est 54 millions. Donc, vous le voyez, c'est beaucoup moins. Il ne s'agit pas de dire qu'on dénonce un scandale ou quoi que ce soit. C'est plutôt le message là est qu'en réalité, pour ce qui concerne mon bassin en tout cas, et je pense que c'est quand même relativement vrai dans beaucoup de cas, les services de l'eau agricole, c'est-à-dire irrigation et épuration des élevages, dans l'économie agricole, ce n'est pas forcément la majorité. Ce n'est pas forcément un secteur absolument considérable. Bien sûr, à Valence, dire ça, ça pose un problème parce que chez vous, c'est un secteur majoritaire. Mais dans beaucoup de pays d'Europe, en fait, cette partie-là de l'agriculture n'est pas la plus importante et c'est ce que ça donne. Voilà d'ailleurs une illustration de ça. Vous avez le montant des factures du paiement des services par les différents usages, ménages, artisans, commerçants, etc., industrie et agriculture. On voit que même pour faire apparaître quelque chose sur le PowerPoint, j'ai dû augmenter encore la taille du rectangle agricole, sinon c'est l'épaisseur du trait. Dans le cas de mon bassin, hein, de cette Normandie, représentatif de la plupart des bassins du Nord. Bien sûr, c'est un problème, mais on va en parler avec le système du Roucar. Ensuite, on regarde, une fois qu'on a fait ça, je vais passer un peu vite, on regarde les transferts qui ont lieu entre les usagers, ici les ménages, et le contribuable. Donc, qu'est-ce que l'usager de l'eau donne au contribuable? Et qu'est-ce que le contribuable donne aux usagers de l'eau? Autrement dit, à quel degré chacun est subventionné dans son usage de l'eau? Ça, c'est une première réponse à la question de récupération des coûts. Quel est le degré de subvention? Et donc, c'est le thème des subventions publiques. On a à gauche les usagers, ménages, petites activités, industrie, agriculture. À droite, les contribuables. Et on regarde quel est le montant des subventions et qu'est-ce qui représente du paiement. Pour Seine-Normandie, 100 millions d'euros sont versés par le contribuable aux usagers, soit 4% de la facture. Autrement dit, la facture d'eau est subventionnée à 4%. C'est pareil pour les commerçants et industriels, et les commerçants et artisans. C'est 2% pour l'industrie, et c'est 25% pour l'agriculture, irrigation et élevage. Ça, c'est en ce moment, parce qu'il y a un pic très fort d'investissement, lié en particulier à l'épuration des élevages, et donc un taux de subvention et un volant de subvention très important. Si on prend en compte une vision de plus long terme, c'est-à-dire en regardant les investissements qui ont été faits par les agriculteurs depuis 10-15 ans, et le taux de subvention, ça descend à 3 millions d'euros par an en moyenne et 5% de subvention. Donc vous voyez que ça illustre une chose qui est que selon la période de référence, en particulier pour l'agriculture, c'est vrai pour l'agriculture, beaucoup moins pour les autres, mais pour l'agriculture, selon la période de référence à laquelle on regarde la question, le taux change. Tout simplement parce que l'agriculture est un des derniers secteurs à avoir été massivement impliqué dans la gestion des pollutions de l'eau par les élevages, en tout cas en France, et que donc les flux d'investissement sont relativement récents. Deuxième chose, on a essayé de calculer qu'est-ce que vous payez dans votre facture d'eau du fait de la pollution, quels sont les surcoûts liés au fait qu'il faut traiter l'eau, que vous vous détournez de l'eau du robinet pour acheter de l'eau en bouteille parce qu'elle est polluée, voire que vous êtes malade à cause des pollutions. Et on a calculé combien ça coûte chaque année aux différents usagers. 450 millions d'euros pour les ménages, 31 pour les commerçants, 41 pour les industriels, pas de surcoût pour l'agriculture. Ça, c'est une chose. Et ensuite, on regarde, ça c'est plus difficile à faire, quelle est la responsabilité de chacun de ces quatre usagers dans la pollution qui génère ces surcoûts. Et on voit donc 25% des ménages, 6% les commerces et artisans, 18% l'industrie, 52% l'agriculture. Ça, c'est sur les principales grandes pollutions qui sont celles qui sont traitées par les usines, c'est-à-dire azote, phosphore, pesticides, etc. etc. Je vais passer vite maintenant parce que je pense qu'il faut qu'on laisse de la place au débat. Et vous amener aux conclusions concernant cette évaluation pour Seine-Normandie.